Voici le parcours qui correspond à l'extérieur de la tour de Castro d'Ouro. Cette construction a été le témoin muet de certains événements déterminants de la vie du maréchal Pardo de Zela et de sa compagne et épouse Isabel de Castro, des personnages historiques controversés, entourés de mythes et de légendes qui vécurent au XVe siècle les révoltes paysannes des Irmandinos, les guerres de succession au trône de Castille et les conflits entre la noblesse galicienne, l'Église et le pouvoir royal. Les voix du maréchal et d'Isabel guideront vos pas dans cette promenade qui vous plongera dans cette époque mouvementée. Pour profiter de la visite, veuillez suivre ces indications. Après avoir lancé la lecture, il est important de ne pas l'interrompre jusqu'à la fin. Respectez l'itinéraire décrit afin de ne pas perdre le fil de la narration. Faites seulement les arrêts indiqués expressément dans l'enregistrement et, surtout, marchez à pas lents et à un rythme constant. Vous allez à présent commencer votre visite. Pour ce faire, positionnez-vous sur le petit trottoir qui se trouve au pied des escaliers, juste devant l'entrée de la tour. Vous êtes prêts? Très bien, débutons la visite.
La tour qui se dresse devant vous est le dernier vestige du château de Castro d'Ouro. En un simple coup d'œil, vous constaterez que les ruines laissent deviner certains contours de la forteresse. Ses murs à moitié démolis, les restes d'un vieux cimetière adossé à une ancienne muraille, l'église. Un château où nous coulâmes des jours heureux, en somme, et dont les ruines s'obstinent à présent à me rappeler ma disgrâce. « Qui suis-je ? » vous demanderez-vous. « Mon nom est Pedro Pardo de Zela, bien que tout le monde m'appelle au Mariscal, le Maréchal. » Je suis né au XVe siècle, et bien que ma vie fût plus courte que je ne l'aurais souhaité, mon nom demeure à jamais immortel. Pourquoi m'a-t-on choisi comme guide de cette visite? Parce que prisonnier de mon propre mythe, qui mêle légende et réalité, j'erre sur ces terres avec le fol espoir que la vérité soit rétablie sur mon compte et que mon âme puisse enfin reposer en paix. Et en attendant qu'advienne ce jour, autant partager avec vous ma triste destinée. Attention, n'attendez pas de moi un récit historique transparent qui établit des limites entre le fait documenté et le récit romancé au cours des siècles. Je ne dispose d'aucun document pour prouver ce que je dis. Si la tradition veut que je sois mort un 17 décembre, à quoi bon m'efforcer en vain de rétablir la date authentique, le 3 octobre? Si avant mon exécution j'étais retenu prisonnier 10 jours, en réalité 6 mois, cela ne change rien au dénouement. Si j'ai épousé les idées des paysans révoltés appelés Irmandinos ou j'ai soutenu la reine Isabel de Castille dans la guerre contre les fantes Jeanne, dite la Beltraneja, qui peut l'assurer? Pourtant, c'est juste pour cette raison que je me sens libre de dire qu'une seule chose est vraie. Isabel la catholique n'a rien fait pour m'épargner la vie. Je laisse aux gardiens de l'histoire le soin d'en raconter les détails.
Moi, Isabel de Castro, confirme les dires de mon époux. Parce que moi aussi, je suis captive d'un mythe. Pire encore dans mon cas, puisque la légende reconstruit ma vie en s'appuyant sur le mythe de mon mari. Née au sein d'une famille originaire de Viveiro, on a dit de moi que j'étais née à Condé de Lemos. Sœur de Constanza de Castro, on m'a dit cousine de la reine Isabel de Castille, nièce de Pedro Henriquez, évêque de Mondoñedo, mais aussi bénéficiaire d'une dot épiscopale composée entre autres de ce château de Castro d'Ouro.
Ils ne connaissent pas la date exacte de notre mariage. Comment peuvent-ils prétendre savoir avec précision le contenu de votre dot? Si le château de Castro d'Ouro m'avait appartenu, comme l'en affirment certains, je n'aurais jamais permis que les évêques de Mondoñedo le réduisent à une simple résidence de plaisance des siècles durant. Triste destinée pour un château fort comme celui-ci, qui depuis sa construction a ennobli ce sommet. Ceci dit, était-il encore possible d'ennoblir davantage ce village de Castro d'Ouro? En 1220, le roi Alphonse IX lui avait déjà octroyé le noble titre de Bida.
Il trôna fièrement pendant près de 800 ans. Cela ne tient pas de la légende, c'est l'histoire. Mais le temps peut sembler bien court. Je ne peux m'empêcher de me souvenir de votre exécution sur la place de Mondoñedo et des procès postérieurs contre l'évêché qui s'était approprié tous nos biens. Ce fut d'ailleurs peut-être l'une des causes de votre exécution.
Je n'en ai pas la réponse. Être martyr ou héros, cela ne se choisit pas.
Il faut plutôt choisir entre être un héros ou un scélérat. Et je parle des partisans d'une version ou de l'autre. Car ceux qui font de vous un martyr sont aussi nombreux que ceux qui vous accusent de félon.
C'est ce que je disais. Ce n'est pas moi qui choisis.
Pour comprendre notre histoire, il est préférable de remémorer ce temps lointain lorsque tout cela faisait partie du château de Castrodoro et toute la région avait les yeux rivés sur ce qu'il s'y passait. Laissons la tour derrière nous et regardons vers l'église San Salvador. Nous allons marcher vers la droite et faire tout le tour de la chapelle. Allons-y.
Les années 1460, 1470 et 1480 furent des années mouvementées. La grande révolte des Irmandinos, la guerre de succession, les tentatives d'Isabelle et de Ferdinand de prendre le contrôle de la Galice.
Et nous étions toujours au milieu.
Nous prenions parti, Isabelle. Qu'est-ce que la vie sinon prendre parti?
Effectivement, il s'avérait fort difficile de ne pas prendre parti en ces temps agités où la noblesse, belliqueuse et violente, ne cessait d'abuser des bourgeois et des paysans. Et s'ajoutèrent à cela les mauvaises récoltes et la peste. Ce terrain, favorable à la contestation, déboucha sur le déclenchement de la grande guerre d'Irmandinha.
C'était en l'an 1467, et comme dit le refrain espagnol, l'heure était venue pour les moineaux de courir après les faucons. Pourtant, l'offensive ne dura que 2 ans à peine, et la fin de la guerre marqua également la fin de nos espoirs de changement.
Nos espoirs? Depuis quand les Irmandinos étaient-ils de notre côté? Et vous du leur? Dois-je vous rappeler qu'ils ont détruit le château d'Afusaira?
S'ils avaient été mes ennemis, ils ne m'auraient pas laissé libre, comme certains l'affirment. Mais faisons une halte. Je vais vous montrer combien il est facile de fausser la réalité. Vous savez que cette église dont nous faisons le tour était la chapelle du château de Castrodoro. Peut-être reconnaîtrez-vous ce demi-relief sur la seule porte ouverte de ce côté de l'édifice où un calvaire est représenté au centre avec les figures du Christ crucifié entre les deux larrons. Mais que pensez-vous du portique latéral et de la sacristie que nous avons vue en sortant de la tour? Et des fenêtres? Je ne me souviens de rien ou de presque rien de ce que je vois à l'extérieur. Et même s'il y a eu bien de rénovations, les livres assurent que cet édifice date du XVe siècle. Peut-être l'histoire était aussi truffée de mensonges.
Très habile, mais l'histoire ne ment pas lorsqu'elle affirme qu'en 1469, vous êtes revenu, accompagné du comte de Lemos, pour récupérer nos châteaux.
Il n'y a rien de répréhensible à vouloir récupérer ce qui nous appartient.
Alors, dois-je juger bon le conseil que vous aviez donné au comte? Vous lui aviez dit la manière dont il pouvait récupérer tous les biens saisis. Seigneur, pendez aux châtaigniers tous les vassaux.
Ah oui, un autre épisode de ma vie réécrit par la légende.
Il vaut mieux continuer à faire le tour de l'église, en suivant la même direction. Pedro, peut-être n'avez-vous pas prononcé ces mots que l'on rapporte, et peut-être n'étiez-vous pas non plus avec le comte.
Sachez, Isabelle, que certains affirment encore que mon seul combat fut la bataille pour une Galice libre de Castille et de ses rois, et portant son regard vers le Portugal et vers celle qui y trouvait un soutien.
Partisan de Jeanne, dite la Beltraneja, la reine de Castille n'était peut-être pas à votre goût, mais vous avez lutté pour elle et pour Ferdinand en assiégeant Pedro Madruga. N'était-ce pas cela, soutenir les rois catholiques? Attendez, ne répondez pas encore. Nous allons continuer tout droit vers le calvaire en passant entre le mur de la tour et les vestiges de la muraille. Nous allons jusqu'à ce mur bas que l'on voit au fond à l'angle. Vous pouvez répondre, Pedro.
J'ai participé au siège, oui. Mais cela n'implique pas que Ferdinand d'Aragon ait vu en moi un ami.
Certains ennemis des rois catholiques se sont vus octroyer des grâces.
La haine qui me vouait s'est révélée clairement lorsque le délégué qu'ils avaient envoyé pour pacifier la Galice, Fernando da Cunha, dépêcha contre moi le plus résolu de ses capitaines.
Vous voulez parler de Luis de Mudara?
Celui-là même qui a fait fermer le château d'Afrouseira. Nous voilà arrivés à destination. Arrêtons-nous ici et regardons vers la droite. Escrutez l'horizon. Vous verrez au loin 2 sommets. Remarquez le plus haut et escarpé.
Mais se veu bem.
À moi, la triste Frouseira, qui par traîtrise a été vendue, démolie sur la rive, mais n'a jamais été vaincue.
Sur ce majestueux sommet se dressait le château d'Afrouseira. Afrouseira. Ces nobles murs furent mon dernier refuge. C'est là où m'ont conduit mes affrontements avec la couronne. À l'intérieur, j'ai résisté à la violence et à la jalousie de ceux qui se qualifient eux-mêmes de chevaliers et qui n'ont jamais supporté que quelqu'un comme moi gère autant de rentes. Selon la légende, le siège a duré 2 ans et 8 mois et les hommes aux ordres de l'obstiné capitaine Luis de Mudaria étaient au nombre de 300. Tout le monde s'accorde à dire que seule la trahison a pu permettre la prise de la forteresse. Pourtant, peut-être me suis-je rendu. Peut-être ai-je capitulé, pourquoi pas? La thèse de la trahison repose sur un document intitulé « Rapport de la lettre d'exécution ». On y relate les événements qui entourèrent mon exécution. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre. Le traître qui a abusé de ma confiance et a méprisé mon amitié pour me livrer à Mudaria doit figurer parmi les personnes citées dans le rapport. Les siècles ne parviendront pas à effacer le souvenir de sa perfidie.
Écoutez, s'il vous plaît, écoutez-moi.
Vous êtes sourd? Silence!
Tais-toi, Elvira de Boulas. On se taira quand on voudra.
Eh bien, continuez si vous voulez, mais écoutez-moi.
D'accord, parlez. Qu'est-ce que vous avez à dire, Cofano de Valladolid?
Comme vous le savez sûrement, notre seigneur, le maréchal Don Pedro, a profité du retrait momentané des troupes de Mudaria qui sont allés se reposer pour quitter discrètement le lieu et rejoindre le château de Castrodoro. Vous êtes au courant, n'est-ce pas?
Si, sabemos,
estamos al tanto.
Eh bien, le capitaine Luis de Mudaria également.
Comment que también se fue de la lingua? Comment est possible? Comment sauve?
Comment il l'a pris, ce n'est pas les questions. On est là parce que le capitaine a profité de l'absence de maréchal pour parler avec Cofano et lui faire une proposition.
La proposition est de livrer les châteaux.
Non, au castello non, de ninguna manera. Non, 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 non,
non, écoutez, écoutez-moi, écoutez-moi. Vous savez, autant que moi, que nous sommes à bout des forces. Voilà près de 3 ans qu'on ne peut pas sortir d'ici. On ne peut pas manger à notre faim, nous reposer, dormir. Combien de temps on va pouvoir tenir? Le capitaine a promis que nous serions tout pardonnés si nous acceptions la proposition.
Pardon? Pour tout le monde?
Pour tous ceux qui acceptent sa proposition.
On est tous d'accord? Toi, Fernán García Tafornelos, tu es d'accord? Et toi, Pedro López? Roy de Mera, Marcos da Canada, Pero de Merlón.
Aucun d'eux ne me connaissait. Ils s'attendaient peut-être que je revienne à Afrouseira sans prendre de précautions. Malgré la tromperie, ce jour-là, ils n'ont pas pu me capturer. Je suis arrivé à esquiver la trahison.
Pas pour longtemps.
Certes, Isabelle, il y a toujours des gens prêts à vendre leur âme lorsque d'autres sont prêts à les acheter.
Je sais bien de qui vous parlez, mais attendez un peu, car nous sommes près de sa maison. Positionnons-nous un peu mieux pour la voir. Pour ce faire, nous devons revenir sur nos pas et laisser les vestiges de la muraille à notre gauche jusqu'à dépasser ces étranges tombeaux. Nous nous arrêterons près du mur qui apparaîtra ensuite. Allons-y. Nous allons tâcher de localiser la maison où vous avez été fait prisonnier, selon la légende.
La maison d'Alfonso Yáñez.
Ou de Fonsa, car il y a des opinions dans les deux sens.
Des opinions et plus. Il y en a même qui colportent que j'ai été l'amant de ladite Fonsa, si tant est-elle que ce fut une femme.
Il ou elle, peu importe.
Mais Alfonso Yáñez a bien existé.
C'est à lui que vous avez indiqué par testament d'aller chercher deux vaches qui lui appartenaient chez Pedro de Mouras.
Mon ami, j'avais confiance en vous.
Vous êtes allé accorder votre confiance au secrétaire de l'évêque de Mondoñedo.
Quand bien même, j'étais loin d'imaginer qu'Alfonso pouvait un jour me trahir.
Si nous avons atteint le mur, penchons-nous de manière à regarder vers la vallée et détenons notre regard sur un ensemble de maisons, un peu à droite, à deux pas de nous. Entre ces maisons, il y a une construction, derrière ce qui semble un terrain de jeu, avec une chapelle à gauche et une habitation à droite. Ce doit être la maison où vous avez été fait prisonnier, selon la légende.
Afonso!
Que faites-vous là, Pedro? Vous voulez peut-être que tout le monde sache que vous êtes chez moi?
Laissez-moi entrer, vous prie.
Entrez vite!
Je ne vais pas vivre assez longtemps pour vous témoigner toute ma gratitude.
La gratitude ne doit être aussi grande et nos vies ne seront pas aussi longues.
Pas la mienne en tout cas, sans aucun doute. Votre silence me donne raison.
Pedro!
Ne vous excusez pas. Nous savons tous les deux que c'est comme ça. Et si je suis là aujourd'hui, répondant à votre appel, c'est parce que seulement ici, chez nous, je me sens en sécurité.
Malheureusement, aujourd'hui, vous n'êtes en sécurité nulle part.
Ici, oui. Qui pourrait soupçonner que je me cache dans la maison du secrétaire de l'évêque?
Personne n'échappe aux soupçons. Je ne suis pas en reste.
Je comprends. Je ne devrais pas vous compromettre à ce point. Je ne reviendrai pas. Je vous donne ma parole. Mais avant, dites-moi, que se passe-t-il? Pourquoi m'avez-vous fait appeler?
Pedro, vous savez que j'ai toujours été votre ami.
En effet.
Et vous savez que je ne ferai jamais rien qui pourrait vous porter préjudice.
Je le sais, Afonso. Bien sûr que je le sais. Pourquoi m'en parler maintenant?
Personne ne peut échapper à sa condition, Pedro. Et je suis le chapelain de l'évêque.
Que voulez-vous dire, Afonso? Je croyais que notre amitié était au-dessus de tout.
Unir sa vie à une autre, c'est facile, Pedro. Mais pas unir les destinées.
Afonso, je crains de comprendre où vous voulez en venir. Afonso.
Pedro, pardonnez-moi.
Pedro Pardo de Cela, entrégate autoridades.
Pourquoi, Afonso?
Parce que rien ne fait obstacle au pouvoir quand il veut acheter des faveurs. Et les volontés doivent être bien fermes lorsque le pouvoir veut les faire plier.
Vous aviez raison, Isabelle, lorsque vous me mettiez en garde contre certains groupes de pouvoir établis au sein de l'évêché de Mondoñedo. J'ai méprisé votre intuition et j'ai été bien trop sûr de mes forces. Je ne pouvais imaginer à quel point il me haïssait.
Au point de vous exécuter sur la place publique, il n'y a pas de limite pour qui croit avoir Dieu et le roi de son côté.
Vous savez bien que pendant ma détention à Mondoñedo, j'ai été obligé de me défaire de tout, Isabelle.
Mondoñedo n'est pas si loin. En levant un peu les yeux, vers la droite, s'il n'y avait pas la colline, on pourrait presque voir le village.
Eh bien, c'est là-bas, tout près de l'autre côté de la colline, à Mondoñedo, que ma peine de mort a été prononcée. J'avais tout de même l'espoir d'être gracié. J'espérais que la reine veuille bien écouter votre supplique et m'accorder sa grâce.
Le fait est que je ne suis pas arrivé à temps.
Vous êtes resté aux portes.
C'est ce que l'on dit, mais ceux qui racontent cette version de l'histoire ne me connaissaient pas. Si j'avais atteint le pont, si près de Mondoñedo, ni deux chanoines, ni deux sangs n'auraient pu m'arrêter. Tout ce qui entoure le pont du passe-temps tient du mythe. En revanche, cela donne une idée de tout le temps qu'on m'a fait perdre à la cour. Et lorsque je suis arrivé ici, c'était déjà trop tard.
Il était trop tard depuis bien longtemps, depuis que les émissaires des rois étaient devenus plus dangereux que les propres vassaux. Comme le prouve la décision de m'égorger. Avec ma mort, il était évident que cette fois, c'était sérieux. Mais ce ne furent pas des luttes patriotiques, parce que la seule patrie que nous connaissions était celle qui limitait nos terres et les vassaux, celle qui limitait leur propre vie. C'est pourquoi nous devions disparaître, peu importe comment. Nous faire disparaître était la seule chose qui importait. Donc, même si je suis mort prématurément, il me reste le réconfort de savoir que d'une certaine manière, ma mort fut clé. Avec moi est mort le Moyen-Âge et est advenu l'âge moderne. D'ailleurs, quelques années après, avait lieu la découverte de l'Amérique.
Vous avez toujours été votre meilleur défenseur. Malheureusement, vous n'avez pas défendu ainsi vos biens, car suite à votre décès, ils nous ont tous été enlevés. Les récupérer nous a pris quelques années. La mort vous aura au moins libéré de quelque chose, un procès ardu, long et compliqué. Il aura fallu 11 ans à votre fille Béatrice pour obtenir que lui soit rendue la juridiction de Carballo de Galdo. Vous auriez été fière, car l'exécuteur testamentaire Riba de Neira la voulait également. C'est d'ailleurs peut-être le retentissement de cette victoire qui pencha la mémoire populaire en votre faveur.
Pour ou contre, historique, mythique, conté ou contrasté, puisse la mémoire perdurer. Et si ce n'est pas le souvenir de ma personne, le souvenir de ce moment. Ici, dans la tour de Castro d'Ouro, phare à l'intérieur des terres d'où l'on peut contempler toute l'étendue de la Marigna.
Les personnages de cette eau du guide ont été interprétés par ordre d'intervention par Martin Castro, Olivier Cano, Aurélie Garrigue, Chris Iglesias et Álvaro Trillo. L'édition et post-production du son ont été à la charge de Jacobe Martínez Antelo, et la documentation et le scénario sont signés Jesús Ron et Manuel Cortés. Cette œuvre n'aurait pu voir le jour sans la participation de Manuel Lorenzo et Carlos González, et le soutien de Jorge Val et Arancha Incera.